Parshat Beshalach. Donc Paro chasse les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu a fait faire aux Bnei Israël un détour, les a fait passer par Eretz Plishtim, parce que Hachem craignait que devant la guerre qu'il allait falloir mener, les Bnei Israël reculent et retournent en Égypte. Et le Passouk dit dans le Passouk Yutret, dans le deuxième Passouk de la Paracha, Vayasev Elohim et Ha'am Derech Hamidbar. Elohim a fait passer le peuple par le chemin du désert. Évidemment, est-ce que ça va marcher? Oui. Donc par le Yamsouf, donc par la mer des joncs, comme on dit, la mer rouge. Vachamushim alou bnei Israël meretz Mitzrayim. Et les bnei Israël sont montés d'Égypte, mezouyanim. Semble-t-il, c'était armé, mais l'autre lecture dira que, en fait, Chamushim, c'est sur la racine 5, c'est-à-dire que les Bnei Israël ne sont sortis d'Égypte qu'un cinquième, il y a des Midrashim qui disent un cinquantième, etc. Donc c'est 600 000 hommes qui sortent d'Égypte, en fait, ne sont qu'une faible partie des Bnei Israël qui étaient en Égypte. On peut donc dire que la proposition qu'Hachem a faite aux Bnei Israël de les sortir d'Égypte a été majoritairement repoussée. Alors c'est 20% qui acceptent, c'est pas un score terrible. Comme j'ai toujours, De Gaulle est parti pour moins que ça. Alors dans le Passouk, un peu plus bas, donc les Bnei Israël, on nous dit par où ils ont un peu passé, et Passouk Kafalef 21, Hashem olech lifneem yomam, Hashem va marche devant eux de jour, Bahamoud, de jour dans une nuée, l'Androtam Aderech, pour leur aplanir le chemin, Velaïla Bahamoud Esh, et la nuit dans une nuée de feu, les Haïr Laem, pour les éclairer, la Lechet Yomam Valaïla, de sorte qu'ils puissent aller, puissent se déplacer jour et nuit. Rashi dit sur le pasouk l'Anchotam, Rashi dit Sinakut Patach Sheu Komo Lehanchotam, ou Komo dans l'expression Lirotchem Baderech Asher Telchuba. La rotrem, au lieu de, comme le ha rotrem. J'ouvre pas. Essayez de pousser la porte. Bon, ça marche pas. On va vous ouvrir quand même. Alors Rashi dit, tout ça c'est Alide Shliach. Et qui est le Shliach? Ben, c'est le Hamoud de Hanan. Et Akadosh Baruch Hu Bichvodo Molicho Lifnehem. Léan Chosam, ça veut dire qu'il y a Hachem envoie quelque chose pour effectivement leur aplanir le chemin. Et c'est Hachem qui en quelque sorte pousse cette nuée qui va aplanir ce chemin. Bonsoir. Il y a tout un travail que Hachem fait pour permettre au Bnei Israël de circuler jour et nuit, pour permettre au Bnei Israël de circuler facilement, de sortir facilement de Mitzrayim. Bien, ensuite, Hachem dit à mon cher Rabbeinu, dit au Bnei Israël, ve yashuvu, ils retournent en arrière, ve yachanu lifne pi achirot, ben migdol ou ben ayam, lifne baal tsefon, nifrochot achanu al ayam. Ici, il y a une ruse en fait. C'est-à-dire que les Bnei Israël vont faire comme s'ils revenaient sur leurs pas, pour que Paro pense qu'ils sont perdus, qu'ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus où ils vont, et qu'il lui sera facile donc de les vaincre, de les rattraper et de les vaincre. Rashi, sur le deuxième passouk de ce chapitre, ici, donc 14.2, Yud Dalet Bet, sur l'Ifnei Piachirot, ensuite il y a un deuxième l'Ifnei Baal Tsafon. Ils ont campé devant Baal Tsafon, qui était la dernière idole égyptienne. Rachid dit Unishar Mikol Elohe Mitzrayim, c'est la seule idole qui est restée parmi toutes les idoles égyptiennes. Et pourquoi est-ce que cette idole-là n'a pas été détruite comme les autres? Kedei le'atotam, pour induire les Égyptiens en erreur, parce que lorsqu'ils ont vu que cette idole-là tenait encore debout, ils ont tout de suite fait une théorie, et la théorie c'était que kashei iratam, ils ont pensé que leur idole était trop forte pour Hachem. Et Rashi ajoute que, à ce sujet-là, Iov a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu est Mashgil Agoyim, qu'Akadosh Baruch Hu induit les Goyim en erreur pour les perdre. Donc on a ici, si vous voulez, deux démarches. Les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu les a guidés sur un chemin plus long que nécessaire pour les préserver, pour les protéger d'eux-mêmes en réalité. D'accord? Pour qu'ils ne reculent pas devant la guerre à faire contre les Plishtim et qu'ils retournent en Égypte. Jbochou leur a fait éviter cette guerre et le long chemin par la Kriyat Yam Suf d'ailleurs. Tout ça pour préserver, pour protéger les Bnei Israël. Et dans ce passouk, on voit que par rapport au Mitzrim, Hachem, comme Iov l'a expliqué, Hachem a fait le contraire. Il les a induits en erreur. Il leur a donné à penser que l'idole Baal Tsefon était imbattable. Je ne pouvais pas la vaincre. Et il les a aussi induits en erreur en donnant à comprendre que, à croire plutôt, que les Bnei Israël étaient perdus. Cette question de, bonsoir, de la ruse ici qui est à l'œuvre, elle pose un peu un problème. C'est comment est-ce qu'on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ruse, trompe. Alors le Gaon explique qu'Akadosh Baruch Hu a agi de la sorte par rapport aux Égyptiens, par rapport à Paro, parce que c'était Mida Keneged Mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. Parce que souvenez-vous, lorsque les Bnei Israël ont été réduits en esclavage, Chazal explique que tout s'est fait par Ramaout, tout s'est fait par ruse. Au départ, Paro lui-même s'est mis au travail. Dans la fabrication des briques, Paro lui-même, il était sur le chantier, lui aussi fabriquait des briques. Alors on a dit, si le roi le fait, à plus forte raison, les serviteurs. Ensuite, dit le Gaon, tout ça c'est un Midrash Rabba. Ensuite, ils ont été payés pour leur travail, et ils ont été très très bien payés. Poussez la porte, s'il vous plaît. Non, bon, on va vous ouvrir quand même. Donc les Bnei Israël ont fait ce travail. Et ils ont produit énormément de briques à ce moment-là. Et ensuite, Paro leur a dit, bien, puisque vous êtes capables de produire tant de briques pour de l'argent, vous allez produire ces briques pour moi, pour le pays, pour moi, pour Paro. Lorsque Paro a pris la décision d'essayer de noyer le libérateur des Bnei Israël, et qu'il a décidé, Kolaben, que tous les garçons seraient jetés dans le Nil, alors, le décret était tous les garçons vont être jetés dans le Nil. Bien entendu, au Mialdot, aux sages-femmes, la consigne était de faire comme si, d'abord aux gens qui jetaient les enfants dans le Nil, on leur a dit, ben, bien sûr, mais les décrets d'application, ça concerne que les Juifs. Enfin, j'utilise le mot juif, quoi, que les Hébreux. Et ensuite, on a essayé de faire passer pour mort-né les garçons. Enfin, c'était la consigne qui avait été donnée aux sages-femmes. Et puis ensuite, jeter-les dans le Nil. Et évidemment, il leur a dit, si jamais vous êtes accusés, alors je m'arrangerai pour que vous soyez innocentés. Ensuite, il a dit, bon, ben, si on ne peut pas les faire passer, il leur a dit, il faut les étrangler, etc. Tout ça, c'était sous forme de ruse. Ça n'a jamais dit son nom. C'est-à-dire, au fond, si on retrouvait aujourd'hui, pour dire les choses comme ça, si aujourd'hui on retrouvait les archives égyptiennes de l'époque, il n'y aurait aucune mesure anti-juive. Il y aurait éventuellement des mesures parce que les garçons sont atteints d'une maladie ou je ne sais pas quoi, il faut supprimer une génération ou il faut les vacciner, puis ensuite on verra ce qui arrive. Bon, mais rien de spécifiquement anti-juif. C'était, ça n'a jamais dit son nom. Alors, le Mida Keneged Mida, c'est ça? Paro est frappé, il est sanctionné, Mida Keneged Mida. Tu as agi par Ramaout, tu es sanctionné par Ramaout. C'est-à-dire, la ruse, puisque tu as choisi de fonctionner par la ruse, eh bien, on te sanctionne par la ruse. C'est en fait peut-être un principe plus, beaucoup plus large que qu'uniquement un principe de sanction, de mida keneged mida dans la sanction. Ici, on a probablement à l'œuvre quelque chose de plus fondamental, qui est qu'en réalité, ce sont les hommes qui décident, d'une certaine façon, du monde dans lequel ils vont vivre. Akadosh Baruch Hu, pardon ? Oui, Tzilcha, oui. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus personne ici ? Oui ? Akadosh Baruch Hu a créé un monde, et ce monde, il ne l'a pas créé de telle sorte que les hommes soient des robots. Bonsoir. Mais non seulement ils ne sont pas des robots, mais à la limite, il y a comme un renversement, et Akadosh Baruch Hu, comme il vient, c'est Akadosh Baruch Hu, dans le pasuk, c'est marqué Hashem Tzilcha. Hashem est ton ombre. C'est-à-dire qu'en fait, Hashem réagit aux actions des hommes. C'est comme ça qu'Hashem a créé le monde. Le but de l'exercice, c'est que les hommes arrivent à agir suffisamment bien pour qu'en fait, quand Hachem réagit, enfin, disons, si on veut parler comme ça, quand Hachem agit sur le modèle donné par les hommes, eh bien, ce ne soit pas une sanction pour les hommes, ce soit bien. Qu'Hachem suive le modèle donné par les hommes, on l'a déjà vu, vous vous souvenez, lorsqu'Avraham Avinu a fait la guerre contre les rois, pour aller délivrer Lot, il a fait la guerre de nuit. À ce moment-là, on ne faisait pas la guerre de nuit. Alors Hachem a dit, mais Abraham ne voulait pas laisser souffrir, enfin laisser Lot encore prisonnier encore toute une nuit, donc il a décidé de Abraham ne voulait pas laisser que faire, Lot était prisonnier, donc il fallait aller le délivrer. Si on ne faisait pas la guerre de nuit, ben, ça faisait une nuit de plus en prison pour Lot. Et Akadosh Baruch Hu a décidé, Avraham Avinu, pardon, a décidé que Lot n'avait pas à souffrir parce qu'il y avait une règle, convention, qu'on ne faisait pas la guerre de nuit. C'est vrai que c'était difficile de faire la guerre de nuit parce que les groupes électrogènes à ce moment-là, c'était pas très répandu. Donc, déjà l'idée de faire la guerre de nuit, c'était pas tellement évident. Enfin, en tout cas, Avraham Avinu a décidé qu'il allait faire la guerre. Et il a fait la guerre contre eux. Et Akadosh Baruch Hu a dit à ce moment-là à Avraham Avinu, toi, tu as transformé la première moitié de la nuit en jour. C'est-à-dire, tu t'es comporté dans cette moitié de nuit comme si c'était le jour pour sauver Lot. Chayecha adi Hashem, je fais un serment que je ferai la même chose sur la deuxième moitié de la nuit pour tes descendants. Et c'est pour ça que nous sommes sortis de Mitzrayim, nous avons été délivrés de Mitzrayim à Chatzot, c'est-à-dire à la minuit, c'est-à-dire que l'autre moitié de la nuit, c'était ça, la guerre en question, elle a eu lieu la nuit de Pessah, et bien l'autre moitié de la nuit a été transformée par Hachem en jour pour les descendants d'Avraham Avinu. C'est donc Hachem qui a, en quelque sorte, copié l'initiative d'Avraham Avinu. Hachem clairement ici agissent. Et là, évidemment, chez Avraham Avinu, ça n'est pas une sanction. C'est vraiment, puisque tu décides de vivre dans un monde dans lequel, pour éviter la souffrance aux gens, on est prêt à transformer la nuit en jour, voilà, tu vis dans ce monde. Toi, tes enfants vont vivre dans ce monde. Alors, ça marche dans les deux sens, dans le positif ou dans le négatif. Dans le négatif, ça s'appelle une sanction, mida keneged mida. Mais chez Avraham Avinu, ce n'est pas une sanction, c'est aussi mida keneged mida. C'est aussi une mesure pour une mesure. En fait, ça veut dire les mesures que tu prends deviennent les mesures du monde. Akadosh Baruch Hu gouverne le monde selon les mesures que tu as, que l'homme choisit, que l'homme décide de prendre comme valeur, comme les mesures de son monde. Et le Gaon dit que dans le passouk de la Shira, où c'est marqué Kafut Tehomot Velev Yam, c'est-à-dire le Tehom, les abîmes dans la mer, ont été comme figés, comme s'ils étaient glacés. Alors, il a dit Amar Oyev, alors l'ennemi a dit, c'est-à-dire Paro s'est dit Erdof. Je peux continuer de les poursuivre et je vais les atteindre. Et comme dit le Gaon, Kivan chez Kafut et Omot, Aya sauver Paro chez Eretz Achereti. Il a pensé que c'était une de la terre, une autre sorte de terre. On a passé, je ne sais pas, d'une terre argileuse à une terre autre chose. Il s'est dit, je peux continuer. Ukshéba el ayam veirzira kadosh bour et amaim. À ce moment-là, Hachem a fait en sorte que l'eau revienne. Et d'après ça, ça veut dire simplement que ce n'était plus glacé. Naflou a mitzrim migra rama le bira mekta. Ils sont tombés effectivement dans ce trou. Ça veut dire que le Gaon explique que quand les Bnei Israël, ça c'est la semaine dernière, quand les Bnei Israël ont Shalouk, les Kesef, les Ahav, ils ont emprunté des ustensiles en argent ou en or aux Égyptiens. Ve'amrou, alo amitzrim, yirdefu acharenu. Alors les Bnei Israël ont dit à quoi ça sert? Ils vont nous poursuivre et ils vont récupérer tout ça. Alors Moshe leur a dit Kach da'at HaKadosh Baruch Hu, shir de fou etrem. La volonté d'Hachem, c'est qu'il vous poursuive, effectivement. Vesham est là-bas, c'est-à-dire au passage de la mer, là-bas, tirshu otrotehem. À ce moment-là, vous allez hériter de leur richesse. Or, les Bnei Israël, avec un esprit pratique, ils ont dit, mais si de toute manière ils vont nous poursuivre, il y aura une guerre, alors nous on préfère sortir sans rien, on prend rien, on prend pas leur butin, mais comme ça ils nous poursuivront pas. Si, en fait, la raison pour laquelle ils nous poursuivent, c'est pour récupérer leurs biens, nous, on préfère sortir avec rien du tout, mais éviter la guerre. Et c'est pour ça que le Passouk dit, HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Daber na. C'est-à-dire, c'est Là, c'est une forme de supplication. C'est au moins, s'il te plaît, c'est alors, demande-leur, parle-leur en leur demandant qu'ils veuillent bien emprunter. Pourquoi ? Parce que il faut qu'ils l'aient maintenant. Il faut qu'ils aient cette richesse maintenant. Parce que le Gaon pense, il explique que quand Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu qu'après l'exil, après l'esclavage, etc., les Bnei Israël sortiront avec Birchush Gadol, ils sortiront avec un grand butin. Akadosh Baruch Hu, dit le Gaon, la Kavana, elle est sur le butin au moment de Kriyat Yam Souf, mais au moment du passage de la mer. Mais Avraham Avinu s'est trompé, et Avraham Avinu pensait que c'était immédiatement au sortir de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il dit, parce que le Chazal explique, demande-leur qu'ils empruntent maintenant au sortir de l'Égypte l'or et l'argent, qu'il l'est déjà maintenant. Chez Loyomar Ototsadik, Avraham, que Avraham ne dise pas d'Hachem qu'il a accompli la promesse, l'Israël serait réduit en esclavage, et la partie de la promesse, ils sortiront avec un grand butin, il ne l'a pas accompli, puisqu'il se trompe, puisqu'il pense que ça doit se jouer. Alors c'est pour ça que on avait un problème dans ce texte, parce que le texte a l'air de dire que la raison pour laquelle Hachem doit accomplir la promesse, c'est pour que Avraham ne dise pas qu'Hachem n'a pas tenu sa promesse. Hachem doit tenir la promesse même si Avraham ne dit rien. Depuis quand est-ce qu'on accomplit les promesses uniquement parce que quelqu'un va dire qu'on ne l'a pas tenue ? Parce qu'en réalité, la promesse, elle n'était pas sur la sortie d'Égypte. Elle était sur plus tard, sur le butin du passage de la mer. Mais comme Avraham avait nous pensé, c'est pour ça qu'il dit, pour que Avraham ne dise pas, lui qui se trompe, mais qu'il n'est pas un instant même, enfin, c'est plus qu'un instant, parce que entre la sortie d'Égypte et le passage de la mer, au moment du passage de la mer, il verra bien que le butin est Abraham à ce moment-là, il comprendra bien qu'il s'agissait du passage, du butin qu'on aurait après le passage de la mer. Mais entre-temps, il y a eu un moment où il dira, Hachem n'a pas accompli la partie de la promesse qui était de les faire sortir avec un grand butin. Donc, pour lui, parce qu'il se trompe, ça aussi, Akadosh Baruch Hu en tient compte. Là aussi, c'est, puisque toi, tu crois que c'est comme ça, je ne veux pas que tu me soupçonnes un seul instant de ne pas avoir tenu ma parole. Mais c'est seulement parce que lui, il va le dire, effectivement. Parce que lui se trompe. Donc là aussi, si on peut parler comme ça, Hachem fait quelque chose, il demande, il se met en position de demande, comme s'il demande une faveur au Bnei Israël, pour qu'Abraham, qui se trompe, ne pense pas, pendant un certain temps, qu'Hachem n'a pas tenu sa parole. C'est toujours la même chose. C'est vraiment une construction d'un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu se conduit comme les hommes décide qu'il faut se conduire. Ce sont les hommes qui décident. Alors c'est un peu surprenant, c'est pas ce qu'on dit d'ordinaire, mais c'est ça la Torah. La Torah, c'est... Pardon ? Alors on est totalement responsable, parce que tout ce qui arrive en réalité, c'est ce que nous avons fait arriver. C'est nous qui décidons, en réalité. Mais bien entendu, nous ne décidons cela que parce qu'Hachem a décidé que ce serait nous qui déciderions de ce qui se passera dans le monde. C'est lui qui nous a mis en position de le faire. Mais c'est nous qui agissons à ce moment-là. Donc, comme vous dites, c'est quelque chose qui va dans le sens d'une responsabilisation totale. Alors, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, on a l'impression que les choses, en tout cas, telles qu'on sait les expliquer, ne vont pas exactement comme ça. C'est-à-dire, vous vous souvenez, juste pour que ce soit un peu complet, que quand Yaakov Avinu a envoyé Yosef prendre des nouvelles de ses frères, alors c'est marqué qu'il l'a envoyé et que Yosef est parti, mais Emek Hebron. Il est parti de la vallée de Hebron. Vous vous souvenez, on avait expliqué, comme chacun sait, il n'y a pas de vallée de Hebron. Hebron, c'est dans la montagne. Donc, on ne peut pas lire que Emek veut dire vallée ici. Et donc, Chazal disent que ce qu'il faut lire ici, c'est Eitsa Amuka. Donc, le projet profond de ce qui s'est dit de façon très puissante, puisque ça allait gouverner toute la suite de l'histoire des Bnei Israël, de ce qui s'est dit entre Hachem et Avraham Avinu au Brit Ben Abtarim, à l'alliance entre les morceaux, ou quand Avraham Avinu semble-t-il, n'a pas fait confiance suffisamment à Hachem, qu'il a demandé un signe qu'il aurait, lui ou sa descendance, et sa descendance, qu'ils auraient la terre d'Israël. Il a dit la Moeda qui Rachana, comment saurais-je que j'en hériterai? Alors Hachem lui a dit, à ce moment-là, il y a Doa Teda qui guère Yézaracha, etc. C'est ce qui est devenu, pas au départ obligatoirement sous cette forme-là, mais ce qui est devenu la descente en Égypte et l'esclavage, etc. Ça veut dire, ce texte a l'air de, tel que Chazal le lise, et là on a du mal à lire autrement dans le texte, puisque visiblement, à moins qu'il y ait eu des changements géologiques très importants, Hebron n'est pas une vallée. Alors peut-être qu'il y a des milliards d'années, Hebron était une vallée et que la Torah fait partie parle de ça, mais Chazal n'ont pas lu ça comme ça. Ils ont lu qu'on ne peut pas dire autrement que En Emek. Il n'y a pas de vallée. Donc on est obligé de lire ça d'une autre façon, d'une façon poétique, si vous voulez, et lire que le Emek en question, c'est la Etsa Amuka. Ce projet tellement profond qui va bouleverser complètement l'histoire juive. Et là, on a un problème, parce que tant Yosef que Yaakov savent pertinemment que les frères de Yosef le haïssent. Et que Yaakov envoie Yosef ici, il l'envoie au casse-pipe. Yosef n'a aucune chance. Et tout au long du chemin de Yosef, Yosef ne trouve pas ses frères. Il aurait eu mille fois la possibilité de dire de revenir chez son père, de dire je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. D'autant plus que la raison pour laquelle Yaakov l'a envoyé, à savoir avoir des nouvelles des frères. Mais on sait, en histoire de Reuven, qu'il y avait un tour de garde des 10 frères. Chacun venait passer, je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps chez Yaakov. Bon, il se relayait. C'est pour ça que Reuven, qui était à ce moment-là chez Yaakov, n'était pas là quand on a vendu Yosef. Et donc Yaakov savait pertinemment ce qui se passait chez les frères. Il n'avait pas besoin du rapport que Yosef pouvait lui faire. Il avait un rapport régulier. Les frères venaient régulièrement le voir, donc ses fils, et ils pouvaient lui faire un rapport. Donc là-bas, on a l'impression que Yaakov agit comme s'il n'avait pas de brira là-dessus. Comme s'il ne pouvait pas faire autrement. Comme si c'est plus lui qui agit. D'ailleurs, c'est marqué Israël, c'est pas marqué Yaakov là-bas. Comme si c'était autre chose. C'est un projet d'Israël, du clan d'Israël. Quelque part, ça parle tout seul. Quelque chose se joue là, qui a l'air de se jouer par-dessus la tête de Yaakov lui-même. Et avec la complicité de Yosef. Yosef sait bien que ses frères le haïssent. Et ensuite, on voit très bien que quand Yosef est arrivé chez les frères, vous savez, ils ont lâché les chiens contre lui. Et les chiens ne lui ont rien fait. Ils n'ont pas lâché les caniches, hein, certainement. Ils ont lâché les chiens contre lui. Alors, peut-être, on m'a expliqué que les gens qui n'ont pas peur des chiens, ils peuvent très bien se conduire de telle sorte que les chiens ne leur fassent rien. Que même les chiens qu'ils ont lâchés, peut-être que Yosef n'avait pas peur et que les chiens ne lui ont rien fait. Je pense que quand Chazal disent qu'ils ont lâché les chiens pour le faire tuer, c'était eux aussi connaissaient leurs chiens et a priori, les chiens auraient dû l'attaquer. Mais ils n'ont rien fait. Et ensuite, on a jeté Yosef dans un puits où il y avait des scorpions et des serpents. Et il ne lui est rien arrivé. Et vous avez 10 Shvatim, les fils de Yaakov. Ils voient tout ça. Ça ne les empêche pas du tout de vendre Yosef. Comment se fait-il qu'il n'est pas... Ils ont quand même dû s'interroger. On lui a envoyé des chiens dont on pensait qu'ils allaient le tuer. On l'a mis dans un trou où il y avait des scorpions et des serpents, il ne lui est rien arrivé. Ce n'était pas du caoutchouc qu'il y avait au fond du bord, c'est au fond du puits. C'était les vrais scorpions et les serpents. Et là, on peut difficilement dire qu'il a su se tenir avec les... Yosef comme charmeur de serpents, on ne connaît pas, je veux dire... Et ils n'ont rien fait. Et les Shvatim ne bougent pas. Ils ne sont absolument pas remis en question dans leur projet. Par ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Donc il y a ici quelque chose qui se passe, on a l'impression, ça passe par-dessus toute rationalité, tout raisonnement, etc. Il fallait, effectivement, que Yosef se retrouve en Égypte, il fallait qu'il fasse descendre Yaakov en Égypte, parce que c'est ça la Etsa Amouka, mais au Tzad Tzadik, c'est la Etsa Amouka de Abraham Avinu et de enfin, ce qui s'est dit entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, on a l'impression que ce ne sont pas les hommes cette fois-ci qui agissent. Alors bien sûr, vous pouvez dire ça vient de la parole d'Avraham Avinu. De ce fameux Moeda qui Rachena, où Avraham Avinu dit quelque chose qu'on n'arrive même pas à mettre dans sa bouche en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il disait à Hachem, je ne te crois pas. Avraham Avinu qui a inventé la Emouna. Quand Hachem lui dit, je te donnerai à toi et ta descendance, je te donnerai la terre d'Israël, il lui dit quasiment, je ne te crois pas. Donne-moi un papier, donne-moi un signe, quelque chose. Ça, c'est la parole d'Avraham Avinu. C'est Avraham Avinu qui a là fabriqué le nouveau monde, en fait. Il a fabriqué le nouveau monde de ses descendants. Et là, on doit dire que bon, dans ce nouveau monde, il y a des moments où les descendants d'Abraham Avinu ne sont pas libres, ils sont la suite d'Abraham Avinu. Ils agissent pour que ce qui s'est dit là se réalise. C'est pas tout à fait clair. Ça a l'air d'être comme ça. Donc là, ça explique, enfin, tout ça pour dire que, comme Rachid le ramène avec ce passage d'Iov, Kakash Boko a induit les Égyptiens en erreur pour la suite de sa démonstration que Yedou Mitzrayim qui a ni Hachem. Alors effectivement, c'est comme ça que ça se passe. On dit au roi au pharaon que, à Pharaon que les fils d'Israël sont paumés, ils sont perdus, etc. Et voilà, on organise l'armée et on va le poursuivre. Et comme on a vu, Dieu a fait en sorte que l'Égypte, le pharaon s'imagine qu'il pouvait continuer. Il était sur l'eau et il ne savait pas. Il pensait que c'était de la terre. Les Égyptiens sont là, ils sont derrière les fils d'Israël. Pharao hikriv. Pharao a approché. Rashi dit, Ayalo lichtov, Pharao. On aurait dû dire que Pharao s'est approché. Pourquoi hikriv? Écrive, c'est l'expression, c'est les termes qu'on utilise quand quelqu'un approche un corban. Quand quelqu'un apporte, ce qu'on dit apporte un corban, apporte un sacrifice, en Lashon HaKodesh, on dit ou écrive corban. Il approche un processus d'approche, de rapprochement. Le corban, on dit sacrifice, mais il n'y a pas du tout la connotation sacrifice dans le mot corban. Il y a seulement la connotation rapprochement, c'est-à-dire c'est un processus, c'est un moyen utilisé par celui qui se sent éloigné ou qui est de facto éloigné par les fautes qu'il a faites, et c'est un processus qui est donné pour se rapprocher. Et donc Rashi dit Ikriv Atzmo, en quelque sorte c'est comme si il s'approchait en korban. En fait, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait pour être aussi proche des Bnei Israël que possible. Comme si c'est une démarche du même ordre que la démarche qu'on a quand on approche un korban. C'est une façon de s'approcher soi-même. Alors, qu'est-ce que font les Bnei Israël? Alors, c'est pas. Pasuk dit, va yiru me'od. Ils ont eu très peur. Va itza'aku Bnei Israël el Hashem. Et ils ont crié vers Hashem. Pasuk yud, oui. C'est 14-10. Va itza'aku. Rashi ramène une mechilta, il ramène un midrash halakha qui dit que les Bnei Israël tafsu umanut avotam. Littéralement, ils ont repris l'artisanat de leurs ancêtres, le savoir-faire de leurs ancêtres. D'Abraham, au sujet d'Abraham, nous c'est marqué que El Amakom Asher Amad Sham, c'est-à-dire il a prié, Abraham nous a fixé un endroit, il est retourné à l'endroit où il avait déjà prié. Chez Yitzhak, c'est marqué qu'il est sorti la soir Bassadé, et chez Yaakov Avinu Vaivgab Amakom, ça veut aussi dire qu'il a prié à cet endroit-là. Donc Rashi rapporte, il est clair en fait, il ramène cette Mechilta, qui nous enseigne que les Avot ont prié. les ancêtres, les avotes, les patriarches ont prié. Et que les Bnei Israël ont. Ici, ils reviennent à la façon de faire des avotes. C'est curieux, on a un peu l'impression que jusque-là, les Bnei Israël n'ont pas prié. Maintenant, tout à coup, tafsou, umanu tavotan. Jusque-là, ils ne priaient pas. Effectivement, ils ont crié, mais ils n'ont pas prié. Et pourtant, ici, le pasouk dit vaïtsaakou, El Hachem. A priori, ils ont crié. On ne voit pas. Ici, Rashi ramène cette Mechilta pour dire que, effectivement, qu'ils ont prié. Et c'est que Rashi a jugé nécessaire de nous apporter les psukim pour nous dire que les avot ont prié. Porte un passo pour Abraham, un passo pour Yitzhak et un passo pour Yaakov qui dit chaque fois psukim qui disent qu'ils ont prié. C'est un peu surprenant parce que, en fait, il y a deux sortes de prières, en tout cas. Il y a une prière qui est à faire dans toute situation où on est en danger. Il y a une mitzvah de prier. Kol tzarach et lotavo. Chaque fois qu'il y a une situation dangereuse, on a une mitzvah de prier. Et les Bnei Israël étaient dans ce cas-là. Donc c'est la prière faite en situation. Et les exemples qu'on nous a apportés des avot, ce ne sont pas des prières en situation. Ils n'étaient pas en danger. Quand Yitzhak Avinu sort la soir bassadé, il prie, parce qu'il priait dans les champs, il n'est pas dit nulle part, il n'est dit nulle part qu'Yitzhak était en danger. Yvgaba Makom, quand Yaakov Avinu revient sur le lieu où ses ancêtres avaient prié, et qu'il avait dépassé dans son chemin sans s'en rendre compte, et ensuite il revient, il n'est pas en danger. Donc, c'est la prière, comme la prière que nous faisons, nous, trois fois par jour, qui est une prière qui n'est pas une prière parce qu'on est en danger. Si quelqu'un est en danger, il ne va pas se dire, ah, j'ai déjà prié Shacharit, maintenant c'est encore, je ne vais pas prier parce que c'est Shacharit, j'ai déjà fait une fois. Ce n'est pas du tout la même prière. Et donc c'est étonnant de dire que c'est ça tafsu omnotavotam. Les avot ont prié. Alors, pour essayer de résoudre ce problème, j'aurais tendance à dire que c'est vrai que ce sont deux situations, c'est deux sortes de prières différentes. Mais elles ont le même but, à savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Alors, si il y a une discussion dans la Gemara pour savoir si la prière, on l'a instaurée, nous, la nôtre, c'est-à-dire notre Shacharit, Mincha, Maariv, Arvit, est-ce que ça a été instauré en lieu et place du Corban Tamid. Harit, c'est un statut un peu à part, mais disons, Shacharit et Mincha, ça correspond au Corban qu'on apportait deux fois par jour. Le premier, on l'apportait le matin, c'était le Corban d'ouverture du Beth Amikdash, si vous voulez. Et celui qu'on apportait en fin d'après-midi, c'était le Corban de fermeture du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était fermé le soir. De nuit, il n'y avait pas le Beth Amikdash, on ne pouvait pas entrer. Le Beth Amikdash. Il y avait les Kohanim qui. Il y avait les carcasses des Corbanotes qui continuaient de brûler pendant toute la nuit, mais on n'approchait pas de Corbanotes, on ne fonctionnait pas, il était fermé le Beth Amikdash. Et alors, comme on n'a plus aujourd'hui le Beth Amikdash, alors. Il y a une version dans la Gemara qui dit que les tfilot keneged tmidin, on les a instaurées pour qu'elles remplacent le korban tamid, le korban permanent, celui qu'on apportait deux fois par jour. Mais il y a une autre explication qui dit que les tfilot, non, ce sont les avot qui les ont instaurées. Ce sont les patriarches qui les ont instaurés. Les deux choses sont vraies d'ailleurs. Alors, ces tfilotes que. Là, ces trois exemples qu'on a apportés, ça correspond aux tfilotes que les avotes ont instaurés. Qu'est-ce que ça veut dire que les avotes ont instauré les tfilotes? Qu'est-ce qu'ils voulaient en instaurant ces tfilotes? C'est-à-dire, si vous voulez, la grande différence, c'est que si on dit que ce sont les avotes qui ont instauré les tfilotes, alors les tfilotes ont précédé les korbanotes. Ont précédé j'utilise le mot sacrifice, oui. Tandis que si on dit qu'on a instauré les prières, les tfilotes, pour remplacer les sacrifices, alors il y avait d'abord les sacrifices, et après on les a remplacés par les tfilotes. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui est premier. C'est un des aspects de la question. Si nous disons que, il semble que ce soit ça qu'on apporte ici, que Umnot Avotam, évidemment, on est avant l'instauration des Korbanot, puisqu'on est en train de, on est en train de sortir d'Égypte, c'est pas fait les Korbanot. Et alors, on fait référence aux Korbanot que les Avot ont, aux Tfilot, pardon, que les Avot ont instauré. Et alors là, on peut se demander, il faut se redemander la question que j'avais posée avant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui se passe quand vous priez? Qu'est-ce que vous faites? Non, parce que la prière, bon, il y a une partie hoda'a dans modim, on remercie, on reconnaît, mais c'est une partie de la tfila. Mais ce n'est pas du tout le cœur, ni le corps de la tfila. Le corps de la tfila en semaine, c'est les demandes. Les 13 demandes, enfin disons 12 demandes plus la malchinim. Donc la prière spéciale contre les hérétiques. Et disons, il y a 12 demandes. On demande tout. On demande l'intelligence, on demande la santé, on demande tout. L'abondance, etc. Donc ce sont des demandes. Qu'est-ce que ça veut dire D'accord, on demande. Alors. Je vous ai déjà dit souvent que ce qui est surprenant dans ces demandes, c'est qu'elles sont faites à l'impératif. Bon, c'est bien, c'est l'impératif. Tka bechofar gadol, barer. C'est toujours l'impératif. Alors, le paradoxe, c'est que la Gemara dit il faut faire ces demandes qui sont à l'impératif, mais avec un ton suppliant. L'impératif avec un ton suppliant. D'accord, ça, c'est la schizophrénie juive. Il faut être capable de donner des ordres. Et c'est ça l'histoire, n'est-ce pas? L'impératif, c'est le mode qu'on utilise pour donner des ordres. Et d'une certaine manière, nous donnons donc des ordres à Hachem. Mais nous ne prions que parce qu'Hachem nous a permis de prier. Il nous l'a permis et il nous l'a ordonné. C'est pas évident de permettre de prier justement dans la mesure où on donne des ordres. Mais encore une fois, puisque avec ces ordres, qu'est-ce que j'exprime? J'exprime ma volonté. Et cette volonté, elle sert à former ce qui va, ce qu'on appelle le Ratzon Hashem, la volonté divine. Ce que je forme, c'est ce qui va être appelé la volonté divine. Mais c'est tout à fait dans le droit fil de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ce sont les hommes qui forment la volonté divine, mais qui sont en charge de la former. La mitzvah qu'Hachem nous a donné de prier, c'est, ça peut se dire, je vous ordonne de former ce qui s'appellera le Ratzon Hashem. Vous allez demander ce dont le monde a besoin, et je vais le faire. Et vous me le demandez à moi parce qu'il n'y a que moi qui puisse le donner, mais ce sont vos demandes. C'est vous qui demandez. Et en quelque sorte, je fais ce que vous demandez. Il y a une puissance de la prière. C'est extrêmement puissant. Toujours cet exemple, vous connaissez, que le jour de Kippour, le Kohen Gadol fait une prière absolument extraordinaire. Vous savez quel est son souci, le Kohen Gadol à Kippour. Il a un souci. Il fait une tfila, une prière. Il demande à Hachem de ne pas écouter la prière des touristes qui voudraient qu'il ne pleuve pas alors que le monde a besoin d'eau. Vous avez une bande de touristes qui sont évidemment pas la majorité de l'humanité. Ces gens-là, ils sont en voyage, ils voudraient bien qu'il ne pleuve pas. Ils demandent qu'il ne pleuve pas. Mais c'est un moment où le monde a besoin d'eau. Eux aussi, ils ont d'ailleurs besoin de cette eau-là. Parce qu'ils sont aussi dans le monde, et quand le monde a besoin d'eau pour manger, eux sont concernés aussi. Néanmoins, ils vont prier pour qu'il ne pleuve pas. Alors, c'est à s'arracher les cheveux. Il ne faut rien moins que la tfila du Kohen Gadol à Yom Kippour pour contrebalancer leur prière. Mais le monde entier prie aussi pour qu'il pleuve. Le monde a besoin d'eau, alors on est tous en train de prier pour qu'il y ait de l'eau. Mais eux, ils prient plus intensément. Ils sont en voyage. Et il faut mettre en face d'eux pour que la prière... Ça veut dire que si on n'a pas la prière du Kohen Gadol, c'est eux qui vont gagner. C'est-à-dire que le monde va manquer d'eau à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils prient. Il y a une puissance de la prière. Il faut mettre en face d'eux la prière du Kohen Gadol à Yom Kippour. Il ne prie pas pour autre chose, hein, le Kohen Gadol. Il prie pour ça. Oui, c'est pour ça que je dis. Il y a tous ces gens-là qui prient. Mais visiblement, ils ne prient pas assez énergiquement, puisqu'il faut mettre en face d'eux le Kohen Gadol.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre à partir de là? Parce que c'est vraiment que le bien soit du touriste, il ne veut pas se mouiller, mais ça paraît un peu.
Ça paraît un peu, comme vous dites. Mais je pense que c'est pour que ça nous paraisse un peu, mm-hmm. que c'est écrit, et pour qu'on réfléchisse. Bon, je pense que ça veut dire, peut-être d'autres choses encore, mais ça veut certainement dire qu'il y a une. Quand quelqu'un veut vraiment quelque chose fortement, alors il va le demander à Hachem et Hachem va le lui donner. Et le problème, ici, on voit une chose qui est très importante, c'est que dans la prière n'est pas autocorrective. C'est-à-dire, si on demande quelque chose qui est mauvais par la prière, on peut l'obtenir. On peut obtenir les choses même si elles ne sont pas bonnes. C'est pas que, puisque j'ai demandé à Hachem, alors automatiquement ça ne peut être que bon. C'est pour ça que nous on se méfie, et quand on demande à Hachem, on demande à Hachem, Shimale Mishalot Libeinu le Tova. Nous lui disons, Je le demande intensément, fortement, et seulement si c'est bon pour moi. Si c'est pas bon pour moi, je ne le demande pas. Je ne suis pas toujours capable de savoir ce qui est bon pour moi. Mais toi, tu sais, et je ne te demande ce que je demande que si c'est bon pour moi. C'est pour ça qu'on ajoute le Tova, si c'est bon pour moi. Mais donc ça veut dire que la prière en elle-même ne contient pas le Tova, si je ne l'ajoute pas. On pourrait imaginer qu'elle soit autocorrective. Donc, quelque chose dans la prière qui fait que, bon, bah, si on sait que c'est pas bon, bah, alors tu l'auras pas. Non, on peut obtenir les choses, même quand elles sont mauvaises pour nous, par la prière. Non, ça veut dire que quand on n'obtient pas, c'est qu'éventuellement il y a d'autres personnes qui sont en cause, qui ont demandé autre chose. Ma prière a eu un effet, mais elle n'est pas seule. Le problème, c'est comme toujours dans tout l'Anzdaka, dans tous les Inyanim, si j'étais seul, ou si on n'était que deux, alors je devrais tout à l'autre, etc. Mais là, on est beaucoup, et ma prière, elle n'est peut-être pas assez forte. Il y en a qui ont mieux prié, ou ils sont plus nombreux. Alors ça se mesure à la fois au nombre et à l'intensité, etc. Comme on le voit dans cette histoire des touristes et de la pluie, puisque le monde entier prie certainement pour qu'il pleuve au moment où on a besoin de la pluie. Oui, ce que je veux dire, comme nous ne savons pas. Si c'est bon, oui, c'est pas. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Oui. Si c'est bon pour les autres, ni pour soi. Oui, oui, c'est pour ça que je dis, on est très prudent et on ajoute le Tova. Parce que je ne sais pas si c'est bien. Je sais que je ne sais pas. Bon, on peut aussi, effectivement. Après coup, des fois on comprend, tiens, je croyais que ma vie dépendait de ça et qu'il fallait absolument avoir ça, puis c'était pas ça. Et des fois ça nous met des années jusqu'à qu'on comprenne, mais des fois on comprend jamais. Non, non, ne vous tracassez pas. Oui.
Est-ce qu'en finalité.
Non, il ne corrige pas. Si tu veux vraiment, tu l'auras. On est responsable.
Nous sommes.
Oui, alors, c'est pour ça que si tu. C'est pour ça que je vous dis ce que nous faisons, et ce que vous faites aussi, parce que c'est écrit dans les Sidourim, comme ça. Le Tova. C'est écrit le Tova dans les Sidourim. Donc, il ne faut pas croire que c'est seulement pour enjoliver. C'est vraiment nécessaire de le dire. Et si jamais ce n'est pas écrit, il faut le dire quand même. Chaque fois dans la phrase, chez Imaleh, Michalot libeinu le Tova. Hachem, quand on demande à Hachem de remplir les désirs de nos cœurs, le Tova quand c'est pour le bien.
Quand il y a
vraisemblablement, le problème c'est qu'on prie toujours pour la reproche des mains de quelqu'un, même quand c'est bien pour lui ou pour le monde, que voilà, il a fini son temps, il a fait ce qu'il avait à faire, et peut-être que maintenant il faut le laisser partir. Alors nous on ne sait pas, alors dans le doute on prie pour la reproche des mains des gens, mais peut-être que il y a d'autres éléments pour le monde, peut-être il faut laisser la place à d'autres, peut-être il peut être plus efficace en haut qu'en bas, je ne sais pas. Peut-être. Vous savez, pour celui qui s'en va, a priori, là où il va, c'est très bien. Hein. S'il a bien rempli sa vie, c'est sûrement mieux que là où il est. Seulement là où il est, il peut encore ajouter, il peut arranger son son monde à venir. On dit que le Gaon, sur son lit de mort, il pleurait. Alors quelqu'un le dit, tu exagères. Tu as quand même fait toutes les mitzvot, tu as étudié comme c'est pas possible. Il dit, je pleure pas comme ça. Il dit, je pleure parce que je quitte un monde où pour quelques sous, je peux faire des mitzvot. Donc je peux encore arranger mon compte, en quelque sorte. Et je vais dans un endroit où, tout l'heure du monde, ça ne bougera plus. Mais là où il va, c'est, a priori, c'est bien, s'il a rempli son temps. Mais alors, des fois, on raconte du Khatam Sofer. Il y a eu un moment où le Khatam Sofer était très, très malade. Et les gens étaient tous, ils sont tous venus, tout le monde priait pour que ça refroche les mains. Il était dans son lit, et au bout d'un moment, il s'est soulevé, il a dit arrêtez de prier, de pleurer, etc. Vous m'empêchez de me concentrer. Je suis en train de réviser ce que j'ai étudié. Et je vais pas mourir maintenant. N'ayez pas peur. Allez-vous-en. Et puis quelques semaines plus tard, à Mincha, il s'est couché sur son lit, il a salué tout le monde, il a dit voilà, salue tout le monde, et puis il est Mincha. C'est-à-dire que avant, on le dérangeait, il voulait répéter son étude, et les gens voulaient donc réviser, pour qu'il arrive dans le monde à venir avec ce qu'il avait étudié, ce qu'il avait inventé, ce qu'il avait découvert, etc. Et les gens le dérangeaient, parce que alors évidemment, ils étaient tous en train de prier pour sa refroche les mains, etc. Il leur dit, d'abord, c'est pas le moment, et on va voir justement que ici, on va voir un cas, le cas justement du « c'est pas le moment ». Alors, il ne faut pas croire que ça, quand on a prié, c'est qu'on n'a pas bien prié. Il y a d'autres éléments qui jouent aussi. Il y a quand même des choses. C'est un monde où nous faisons beaucoup de choses et on, en fait, ce monde, effectivement, on le constitue. Mais il y a des éléments néanmoins qui sont la volonté d'Hachem. Et voilà, et on ne comprend pas toujours. La plupart du temps, on ne comprend rien du tout. Et on ne comprend pas ce que sont les choses et pourquoi elles sont comme ceci plutôt que comme cela. Alors ici, justement, on nous dit qu'ils ont prié comme leurs ancêtres. Alors ce que je voulais dire, c'est que ils ont prié, pourquoi ? Pour être sauvés. Pour qu'Hachem les sauve. Il y a les Égyptiens qui sont derrière, qui veulent ou les tuer ou les ramener en Égypte en esclavage. Donc ils prient pour que la volonté d'Hachem soit de les sauver. C'est la même chose que ce qu'on fait quand on prie pour que la volonté d'Hachem soit de donner au monde selon le monde a besoin, tel que nous le comprenons. Alors nous, aujourd'hui, on ne fait pas une prière complètement personnelle parce qu'on n'est pas capable de savoir ce dont le monde a vraiment besoin. Donc là, Anshei Knesset HaGdola ont rédigé un texte dans lequel ils ont mis tout ce dont le monde peut avoir besoin. C'est un texte absolument génial puisque il tient compte de ce dont le monde a besoin dans toute l'histoire. Et comme vous le savez, nous faisons trois fois par jour la même prière, matin, midi et soir, enfin matin, après-midi et le soir. C'est la même prière. Évidemment qu'on n'a pas besoin de la même chose le matin, midi et le soir. Mais ça veut dire que qui est-ce qui va faire la différence ? Ben c'est moi. C'est l'état d'esprit dans lequel je vais dire les choses, ces mêmes mots, ce que je vais penser quand je vais dire ces choses-là, comment je vais ressentir ces mots, comment je vais les exprimer, c'est ça qui va faire la différence entre aujourd'hui et demain, entre ce matin, cet après-midi, ce soir, etc. Donc il y a les mêmes mots. Toute la vie, les mêmes mots. Et vous, et votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et tous nos maîtres. Depuis les Anshek Tessakdola, on dit la même chose. Tous les jours, trois fois par jour. Sauf le Shabbat et les fêtes. Et donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé une formulation adéquate pour tous les temps, pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous les temps, toutes les époques. C'est absolument incroyable. Il y a tout. Tout est là. Alors, c'est comme si on avait toutes les touches. Évidemment, on va les jouer différemment. On va mettre l'accent plutôt là-dessus que là-dessus. Quelqu'un m'a dit une fois que, au moment de la guerre des six jours, il était derrière le Stapeler, qui était un des grands maîtres à l'époque, et il entendait que quand il priait « Riva, réveille-nous », il hurlait, c'était sa prière à voix basse. Mais le « Riva, réveille-nous », c'était... Le Stapeler, c'était, en temps normal, il ne criait pas sur ces mots-là, en tout cas. Mais là, à ce moment-là, c'était une explosion. C'était demander à Hachem. C'était ce qu'il fallait. Donc, c'est comme si on avait toutes les touches du piano. Et alors, on appuie sur toutes les touches, mais plus ou moins longtemps, et plus ou moins doucement, comme ceci ou comme cela. C'est tout à fait autre chose. Toutes les notes, on peut les jouer de toutes sortes de façons. Bien, il y a tout ça dans ce que les Anshei Kriyat Hagadola ont fait pour nous. Alors évidemment, si personnellement on voudrait ajouter quelque chose, on en a le droit, bien sûr. On peut ajouter. Alors, ils se sont mis à crier. Ils ont crié vers Hachem, ils ont prié, mais en même temps, ils se sont tournés contre Moshe, et ils l'ont dit, il manquait de place dans les cimetières égyptiens, pour que tu nous aies pris pour crever dans le désert. Qu'est-ce que tu nous as fait de nous sortir d'Égypte? On t'avait bien dit que on préfère rester à être esclave en Égypte, servir les Égyptiens. Je préfère ça plutôt que de crever dans le désert. Alors Moshe a dit au Bnei Israël, ne craignez rien. Vous allez, tenez-vous là, et vous allez voir le sauvetage qu'Hachem va vous donner, le salut. Ce qu'il va faire aujourd'hui pour vous, vous voyez ici l'Égypte dans cette situation-là, vous la verrez jamais plus. Hachem va faire la guerre pour vous et vous taisez-vous. Taisez-vous. Seulement, il semble, ça c'est ce que Moshe a dit au Bnei Israël. Seulement, du verset d'après, c'est marqué Vayomer Hachem el Moshe, Matitsak elai. Il semble que Moshe, lui, de son côté, il a continué de prier. Il leur a dit d'arrêter de prier, et d'arrêter parce qu'eux, ils priaient et ils criaient contre eux. Mais lui, il a prié pour les Bnei Israël. Et Hachem lui dit, c'est pas le moment de prier. C'est pas le moment de prier. Qu'est-ce que c'est pas le moment de prier? C'est quoi? Si on ne prie pas dans cette situation-là, alors quand est-ce qu'il faut prier? Non. D'abord, el Bnei Israël, lui, Isaou. Dis aux Bnei Israël et qu'ils avancent. Avance, ils sont dans la mer. Je vous ai dit, j'espérais que vous aviez vos bottes, parce qu'ils sont entrés dans la mer. Et la mer ne s'est pas ouverte à ce moment-là. La mer ne s'est ouverte quand ils ont eu de l'eau jusqu'au nez. Baoumaïmad Nafesh, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Et ils étaient à pied sec. Donc ça veut dire que même Moshe Rabbeinu prie, il pense qu'il faut prier, Et Hachem lui dit, tu n'as pas à prier, c'est pas le moment de prier. Rashi dit, Matitsakelai, pourquoi tu cries vers moi, donc pourquoi tu pries? La madnushaya Moshe omed umit palel. On apprend que Moshe Rabbeinu était là, il était là debout et il priait. Amarlo akadosh baruchu lo et ata leharich bitfila. C'est pas le moment de prier longuement. Pourquoi? Chez Israël ne tunim batzara. Parce que les Bnei Israël sont dans une situation, tsara c'est tsar, c'est comme Mitzrayim. Ils sont dans l'angoisse, dans l'étroitesse en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où il ne faut pas prier. Mais on a dit que ce que les Bnei Israël avaient fait, donc ce que Moshe Rabbeinu fait aussi, c'est Omnout Avotam. On a appris ce qu'on fait comme les Avot. Alors le Rav Volbe, il expliquait ça comme ça. Dans la tefila, il y a deux éléments. Il y a deux. Lorsqu'on doit prier pour quelqu'un, par exemple, alors la prière à ce moment-là, elle est, il faut s'approcher d'Hachem pour lui demander quelque chose. C'est une prière demande. Et puis, d'un autre côté, il y a un autre aspect qui est le fait même de prier qui est une élévation. On s'approche d'Hachem. Il n'y a pas de pourquoi. Ça n'a pas d'autre finalité que de s'approcher d'Hachem. Ça, quand on veut s'élever et s'approcher d'Hachem, c'est ce que dans la Gemara on appelle, et là qu'on a ce que Rashi a cité, ça c'est la harich betfila. C'est choisir de prier longuement. Et la Gemara dit qu'il y a des endroits où on a fixé qu'il fallait être ma'arich b'tfila, et les endroits où on a fixé qu'il fallait être mekatser b'tfila. Les endroits où on a fixé qu'il fallait prier longuement, et les endroits où on a fixé qu'il fallait prier de façon courte. Ça se traduit dans les brachot. Il y a des bénédictions qui sont simplement baruch comme boré pri agafen ou comme boré pri aetz, etc. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Minei Mezonot. Et puis il y a des brachot qui sont Baruch un contenu, et puis de nouveau Baruch Ata Hashem, et on termine. Donc l'une est courte, il y a un seul Baruch, et l'autre est la longue, elle commence par un Baruch et elle termine par un Baruch. On a dit dans la Gemara que là où on a dit qu'il fallait utiliser une prière courte, une bracha courte, il faut en rester là. Et là où on a décidé que ça devait être long, alors il faut choisir la voie longue. Tu ne peux pas intervertir. C'est deux modes de prière différents. Alors, Rav Volbe disait, il me semble, que cette histoire de la prière longue, c'est effectivement quand on veut s'approcher d'Hachem. Et la prière courte, c'est quand on demande quelque chose. Et alors, d'après ça, on comprend, Hachem a dit, c'est pas le moment de prier longuement. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment maintenant d'essayer de s'élever pour s'approcher d'Hachem. Maintenant, tu demandes quelque chose. Alors tu as demandé. Mais j'ai déjà répondu. Avancez maintenant. Vous avez demandé à être sauvé. Vous êtes sauvé. Avancez. Dis-leur d'avancer. C'est fait. Tu n'as pas besoin maintenant de... Même toi, mon cher Abel. Tu n'as pas besoin maintenant de te... Ce n'est pas le moment de s'élever, de s'approcher d'Hachem, etc. Tu feras ça à un autre moment. Maintenant, il faut demander à être sauvé. Ça a été fait. Avancez maintenant. Les choses sont faites comme vous avez demandé. Ce que vous avez demandé, je vous l'ai accordé. Avancez. Le Gaon dit que ce n'était plus un problème de prière. C'est un problème de bitachon. Faites-moi confiance. Faites confiance. Avancez. Vous avez demandé. La prière est efficace. Avancez. Dis aux Bnei Israël qu'ils avancent. Et les Bnei Israël ont avancé. Il y a une discussion dans la Gemara pour savoir si, vous savez bien, le premier qui a sauté dans la mer à ce moment-là, c'est le fameux Narchon ben Aminadav, le prince de la tribu de Yehuda. Et il y a une discussion dans la Gemara. Il y a une opinion qui dit qu'en fait ils se sont battus parce que tout le monde voulait être le premier à sauter pour montrer la confiance en Hachem. Et il y a une autre opinion qui dit que personne ne voulait y aller et qu'on a poussé Narchon. Alors Hachem a protégé les Bnei Israël. Ils sont entrés dans la mer. Comme on l'a dit, les Égyptiens les ont suivis. Les Bnei Israël sont sortis de la mer. La glace ou la partie, la pseudo-terre sur laquelle les Égyptiens croyaient être sur la terre ferme s'est révélée être de l'eau. Ils sont tombés, ont été recouverts par les eaux, ils sont morts. Alors, les Bnei Israël, vous pensez que les Bnei Israël, quand ils sont sortis, pas du tout. Pas du tout. On leur a dit, extraordinaire. Pas du tout. Voilà. Oui, nous on est sortis ici, mais sûrement les Égyptiens sont sortis de l'autre côté. Donc il a fallu que la mer recrache les corps des Égyptiens pour que les Bnei Israël voient et Mitzrayim mettre al Sfat Hayam, pour que les Bnei Israël croient vraiment. Les Égyptiens étaient morts. Yaminu Bachem ou Moshe Abdo. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé, tous les Makotes, la sortie d'Égypte, le passage de la mer, tout ça, ça ne les a pas du tout convaincus, ils n'ont pas fait confiance, ni à Hachem, ni à Moshe. Le Passouk dit Yaminu Bachem ou Moshe Abdo, quand? Ils ont vu les Égyptiens morts. Jusque-là, ils n'y croient pas. Nos ancêtres. Hein? Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est trop dur.